de la question. Jean-Yves Casgar.
Bonjour, bonsoir. La science-fiction est-elle crédible? Pour répondre, un vrai spécialiste, journaliste scientifique et criminologue de formation. Il est traduit en 35 langues, plus de 15 millions d'exemplaires vendus, de l'Arbre des possibles à la trilogie des fourmis, en passant par l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, et tout récemment Le rire du cyclope chez Albin Michel. C'est Bernard Werber. Mythologie, spiritualité, philosophie, science-fiction, biologie, futurologie, c'est un explorateur. Son dernier défi, le livre numérique avec un prix littérature de l'imaginaire, littérature avec un S. Autour de la question le vendredi, deuxième partie, bienvenue. Bernard Werber, on a commencé à parler du rire du cyclope, votre dernier opus, comme on dit, et il est à base de blagues. Alors, si on commençait cette deuxième partie avec une histoire qui vous fait rire.
Je vais vous raconter une blague toute fraîche qu'on m'a racontée ce matin, donc elle n'a pas encore de recul. C'est un type qui va voir son tailleur et qui lui dit, dites donc, foutez la gueule de qui là? Ça fait 15 jours que j'ai demandé des travaux pour vous m'arranger le pantalon. Il est fini, mais vous avez mis un temps fou à le faire. Je vous rappelle quand même que le bon Dieu, il a créé le monde en 7 jours. Et à ce moment-là, le tailleur lui dit, oui, mais vous avez vu dans quel état est le monde de nos jours? Vous avez vu dans quel état est votre tailleur?
Celui-là, il n'est pas dans Le rire du cyclope.
Il n'est pas dans Le rire du cyclope, non.
Alors, dans Le rire du cyclope, donc, vous disiez 60 000 blagues qui sont arrivées de la part des internautes à qui vous les aviez demandées. Vous en avez gardé 300.
Sur le site, oui.
Vous n'en avez gardé que 5 pour l'ouvrage, mais toutes celles qui restent sont quand même plutôt pas mal. C'était très agréable de préparer l'émission avec ça. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces blagues dans le site. Mais vous disiez que quand même, c'était né aussi, ce roman, du fait que vous aviez demandé aux internautes toujours ce lien incroyable que vous avez avec vos lecteurs, de sélectionner une nouvelle et que, en fait, celle qu'ils avaient sélectionnée, c'est celle qui vous a donné l'idée de faire Le rire du
cyclope.
Voilà,
1/17. Oui. Mais, de toute manière, les nouveaux outils, que ça soit Internet, que ça soit le livre numérique, vont permettre d'avoir un autre rapport entre l'écrivain et les auteurs. Je crois beaucoup à ça. Je crois au court-circuitage des mandarins de la profession par les nouvelles technologies. Et je crois que le monde de la littérature va changer. C'est un monde poussiéreux, c'est un monde vieillot. Il y a une révolution à faire, et cette révolution, c'est réhabiliter la littérature de l'imaginaire. Jusque-là, on a une sorte de littérature qui est basée sur le réalisme et souvent l'autofiction. Et maintenant, il faut ouvrir, et pour parler des idées, offrir cette chose incroyable qu'offrent les livres, c'est l'évasion. Et l'évasion, c'est proposer un monde qui n'est pas le même que celui que vivent les lecteurs.
Oui, mais quand même, quand on vous lit attentivement, vous brossez des tableaux qui sont des futurs possibles, qui pourraient bien arriver, parce que on oublie les intrigues, mais vous avez ce vice particulier d'aller chercher la découverte qui est peut-être passée un peu inaperçue, mais qui peut-être est celle qui décrit très bien ce qui pourrait arriver. Et c'est pour ça que la question aujourd'hui, c'est la science-fiction est-elle crédible? C'est que parfois, on a quand même bien l'impression que vous nous décrivez des possibles, si on enlève évidemment le fait que c'est un roman quand même.
Oui, parce que justement, alors ça peut-être semblait contredire ce que j'avais dit avant, mais l'imaginaire, parce qu'il permet d'aller n'importe où, n'importe comment, il faut essayer de le rendre vraisemblable et crédible. Et alors là, j'utilise précisément mon passé de journaliste scientifique pour utiliser une sorte de science douce et proche. Par exemple, quand dans Le Père de nos Pères, j'évoquais l'origine de l'humanité et je trouvais un lien avec le porc, ça n'a jamais été fait en roman, mais pourtant c'est basé sur une vraie découverte qui est le fait que le porc est l'animal dont on tolère le mieux les greffes. De même, quand dans L'Ultime Secret, je parlais des découvertes du cerveau, ce sont des vraies découvertes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le lecteur sait quand c'est possible et quand c'est du pur délire. Et je tiens à rester dans cette zone du probable, possible, rester proche du lecteur tout en l'amenant à faire un petit pas sur le côté afin qu'il voit quelque chose qu'il n'avait peut-être pas vu.
Mais vous allez encore plus loin, puisque vous nous le disiez bien tout à l'heure, c'est que quand même, vous pensez qu'on assiste à l'émergence d'un nouvel homme, d'un homme différent, d'une nouvelle conscience de ce qu'il y a autour de nous et de notre place dans l'univers. Donc ça, c'est comme un cœur qui bat, quoi, que vous suivez.
Oui, mais c'est pas la science-fiction. D'ailleurs, dans la plupart de mes livres, il n'y a ni fusée, ni extraterrestre, ni laser. C'est toujours des gens qui, tout d'un coup, changent. En fait, mes romans, c'est des êtres humains qui, tout d'un coup, comprennent quelque chose. Et ça me semble ça la base réelle du roman initiatique.
Ah, donc vous n'êtes pas dans la science-fiction, en fait?
Non, c'est pas ça. C'est que je considère qu'il n'y a pas de genre. Il y a des bons et des mauvais livres. Pour moi, La planète des singes, c'est un livre de philosophie. Pour moi, Le meilleur des mondes, c'est un livre de philosophie. Je fais la philosophie fiction. La vraie révolution ne se fera pas par la technologie, même si la technologie l'accompagne. La vraie révolution se fait par le changement de mentalité. Mais un changement de mentalité peut très bien avoir lieu en l'an zéro à l'époque de Jésus-Christ. Tous mes livres ne parlent que de ça, c'est des gens qui dorment, qui se réveillent. Et l'objectif, c'est de faire que mon lecteur lui-même se dise « peut-être que moi aussi je dors, et peut-être que j'ai un réveil à faire ». Si on utilise même une métaphore un peu plus poétique, j'allais dire, c'est la métamorphose de la chenille en papillon. Le papillon des étoiles, par exemple, c'est l'histoire d'une humanité qui va utiliser une sorte de vaisseau spatial pour renaître ailleurs, autrement, en espérant qu'elle soit mieux. Les fourmis, c'est une humanité qui, tout d'un coup, va prendre conscience que des insectes qu'ils avaient l'habitude d'écraser, finalement, sont peut-être une civilisation complète. Et donc, l'union des deux pourrait être un bénéfice pour les deux espèces. Toujours cette idée, vous avez mal regardé. Les fourmis, vous croyez que c'est rien, c'est quelque chose. Les cochons, vous croyez que c'est la charcuterie, c'est peut-être des animaux qui peuvent devenir des amis. Vous croyez que vous faites des choses pour des motivations idéales, en fait, vous ne faites juste que fournir des décharges électriques à votre zone du plaisir, ce que je montre dans L'ultime secret. J'essaie juste de faire comprendre aux gens des choses qu'ils n'ont pas pensées. Et le rire, par exemple, dans le rire du cyclope, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement. On a l'impression que c'est un truc de gamin. C'est les blagues de Toto, c'est les blagues Caramba. Il y a une sorte de dévalorisation de l'humour. Et j'avais envie de dire, attendez, le rire, c'est la première étape vers la spiritualité. D'ailleurs, le Dalai Lama, j'avais cette phrase tout le temps quand j'écrivais le livre, c'est mon occupation favorite de point rire. Et on voyait le Dalai Lama avec l'Himalaya derrière. Je me suis dit, quand même, que ce type qui vit une situation politique aussi dure arrive à dire ce genre de phrase, ça veut dire qu'il a fait un travail dans sa tête gigantesque. Et c'est un peu ça que je propose dans Le rire du cyclope, c'est de dire aux gens, attendez, le rire, utilisez-le pour changer et devenir meilleur. C'est un moyen de participer à cette élévation de conscience dont je parlais tout à l'heure. Et c'est marrant parce que les saints ou les bouddhas, on les voit rigolards en Asie, alors que nos saints, on les voit plutôt tirer la gueule en Occident. Et il y a peut-être une leçon à prendre en Asie, c'est quand on a tout compris, on a envie de rigoler, on n'a pas envie juste de faire un air dur en train de dire « j'espère que vous n'allez pas faire de péché, sinon vous allez aller en enfer ». Ça, ça m'a l'air une vision très ancienne. Il faut inventer une nouvelle spiritualité qui soit rigolarde et dans laquelle on ne méprise pas les clowns, peut-être.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi? Pas.
Bernard Werber, alors. Quand on voit tous les domaines que vous abordez, ce que vous voyez émerger petit à petit, que vous essayez de décrire, j'ai bien compris que votre œuvre, vous la créez en marchant, en l'écrivant, mais en même temps, vous n'avez pas une vision globale de ça, mais vous avez la perception intime que quelque chose est en train de s'élaborer. Mais pour autant, quand même, quand on regarde, d'abord, il y a beaucoup de livres, mais souvent, ils sont par thématique et souvent des trilogies. C'est juste parce que il vous fallait juste, je ne sais pas, 3 fois 700 pages ou
Alors, je vais d'autant mieux vous répondre que le livre que j'écris actuellement était à l'origine une nouvelle. Que cette nouvelle, je voulais en faire juste un petit roman de 400 pages. Et qu'en l'écrivant le plan, je me suis aperçu, oh là là, le plan fait déjà 120 pages. Par moment, le roman vous échappe. Vous le regardez comme un animal vivant qui est en train de déployer ses ailes. Et là, je me suis aperçu que ce petit moineau que je voulais mettre dans la cage d'un roman, eh bien, en fait, je vais devoir lui mettre une cage très grande parce que c'est pas un moineau, c'est plutôt un albatros. Donc là, celui que j'écris va faire, je pense, 2 volumes de 1000 pages. Et j'allais dire, c'est le livre lui-même qui m'a réclamé ça. Quand j'ai fait Les fourmis, je voulais pas faire de suite. C'est quand je me suis aperçu que les gens avaient cru que je ne parlais que des fourmis, je me suis dit, il faut que je leur explique que je parle de l'homme à travers les fourmis, et j'ai fait la suite. Et après, je me suis dit, c'est bâtard, il faut que j'en fasse un troisième.
Mais celle sur les dieux.
Celle sur les
pourquoi
dieux.
Pourquoi il y en a 3?
Alors là, c'est pareil que celui que je fais actuellement, c'est-à-dire tout d'un coup, le plan lui-même faisant 200 pages, je me suis dit, je vois pas comment je pourrais le faire contenir dans un seul roman. Donc j'ai fait 3 morceaux, mais il y a des moments où qu'on dessine le squelette, on croit qu'on va faire un petit squelette et on fait un grand squelette. Alors après, il faut mettre les muscles, les organes et la peau qui correspond à un grand squelette. Voilà, mais là, je fais 2 jumeaux, 2 livres qui vont être assez volumineux.
Vous êtes complètement à l'écoute du monde, à la fois ce qui se passe dans la science, mais vous avez vous-même évoqué tout seul l'écologie, le réchauffement climatique, la situation politique sur la planète, etc. Vous avez une idée non imaginaire du futur vers lequel nous allons, ou si vous aviez une baguette magique, ce serait quoi la première mesure à prendre ?
Je l'ai décrit dans le papillon des étoiles. Je crois que la première mesure à prendre, ça serait de lancer un vaisseau spatial pour aller coloniser notre planète. C'est comme ça qu'a toujours agi l'humanité. Elle a fait plein de conneries. Elle a dit, attendez, on va se calmer, on va devenir raisonnable. Ils sont pas devenus raisonnables, ils ont fait encore plus de conneries. Et à un moment, il y a un petit groupe qui dit, bon, bah, y en a marre de cet arrêt, je m'en vais. C'est comme ça qu'ils ont dû quitter l'Afrique de l'Est pour pouvoir monter vers l'Afrique du Nord, puis coloniser l'Asie et l'Europe. L'humanité a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, on n'apprend pas, on progresse pas, mais il y a un petit groupe qui en a marre et qui s'en va.
Donc ça, c'est la baguette magique.
Ma baguette magique, je ferai mon vaisseau, le papillon des étoiles, et je ferai partir, comme dans le papillon des étoiles, 144 000 personnes pour aller coloniser notre planète et recommencer à zéro. Parce que, tel quel, je ne crois pas à la moralisation du monde, je ne crois pas que les gentils vont gagner. Je ne crois pas que tout d'un coup, toute l'humanité va mettre ses ordures dans les poubelles bleues, jaunes et vertes. Je ne crois pas qu'on va pouvoir dire aux pays du tiers-monde, faites moins d'enfants parce que on n'arrivera pas à tenir à 15 milliards sur cette planète. Tous ces discours ne peuvent pas être entendus parce que nous n'arrivons pas à être raisonnables. Donc maintenant, il faut partir.
Mais pourtant, vous dites qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un nouvel homme.
Oui, parmi les gens qui sont éduqués, qui ont la tranquillité de manger et de dormir pour pouvoir réfléchir. Et c'est une infime minorité de la population mondiale. Donc, si ça touche quelques millions d'individus sur les 7 milliards que nous sommes, ça ne suffit pas à faire bouger suffisamment vite la planète. Et je pense que les forces de destruction, c'est-à-dire ceux qui ont envie de faire la guerre, ceux qui ont envie de croissance économique, de croissance démographique, de croissance militaire, sont malgré tout ultra majoritaires et qu'ils ont en face d'eux rien. Et le problème, un philosophe perdra toujours un combat contre un militaire. Si le philosophe dit donc, tu ferais mieux de ranger ton fusil et l'autre il lui tire dans la gueule et c'est fini. Donc il faut être conscient de ça, ça sert à rien de vivre dans un monde de bisounours. Actuellement, les rapports de force ne sont pas en faveur des gens qui ont une grande conscience. J'essaie à travers mes livres d'augmenter le nombre, mais de toute façon je ne toucherai que les gens qui lisent, premièrement. Et les gens qui lisent, je crois qu'en France on considère qu'il y en a 300 000 sur 60 millions, c'est une minorité.
Vous touchez toute la planète, parce qu'il paraît que vous êtes une star en Russie, en Corée.
Je touche des pays où il y a des universités, où il y a des librairies et où il y a une éducation de la population, mais j'étais dans plusieurs pays d'Afrique où il n'y avait pas une seule librairie. Les gens sont tellement dans des problèmes de survie qu'évidemment, ils ne penseront pas à lire. Pourquoi j'ai autant de succès en Corée ? C'est parce que c'est un des pays les plus alphabétisés. C'est-à-dire qu'il y a un réel appétit de connaissance, de savoir, un goût pour l'école des enfants qui est gigantesque. Et ce pays, en plus, est en danger parce qu'ils ont au-dessus les plus tarés qui soient, c'est la Corée du Nord avec un dictateur fou. Donc ils sont en danger, ils peuvent être détruits. Ce qui fait que non seulement ils sont hyper bien éduqués, non seulement ils sont attentifs à tout ce qui est nouveau, mais en plus ils sont en danger. Et ça leur donne une sorte de vibration, une sensibilité qui est assez en phase avec mon travail. De même, si je veux dire la Russie, en Russie c'est parce que c'est un pays neuf aussi. La Corée est un pays neuf, la Russie est un pays neuf, et ils ont toute une génération qui est avide de nouvelles spiritualités et qui n'ont plus envie d'entendre parler des anciennes religion, ni de politique, ni des systèmes de leurs parents. Et quand il y a ça, quand il y a une jeunesse étudiante avide de connaissances spiritualité, en général, mes livres rentrent en résonance très rapidement.
Et c'est parce que vous voulez que la France redevienne un pays neuf que vous vous battez pour cette histoire de prix du livre numérique, littérature au pluriel de l'imaginaire.
Non, ça c'est entre nous, c'est Lire et Sony qui m'ont proposé de défendre la littérature de l'imaginaire à travers un prix, et vu que ça me semble une cause...
Oui, mais c'est le prix du livre numérique. Parce que c'est plus le papier, ça vous dérange pas ?
Non, ça me dérange pas. Pour moi, une histoire est une histoire. Après, que ça soit lu sur ordinateur, que ça soit écouté à la radio ou que ça soit lu sur du papier, c'est l'histoire qui importe. Maintenant, ça me gêne pas, à côté de ça, d'avoir envie de défendre les librairies, surtout les bonnes librairies. Et je crois que c'est pas incompatible. De la même manière que la radio n'a pas tué les journaux, je ne crois pas que les livres numériques tuent les librairies. Je crois que ça va juste augmenter le nombre des lecteurs. Ce prix de l'imaginaire, pour moi, c'est une manière de faire connaître au grand public des auteurs histoires d'imaginaire qui ne seront jamais présentées dans les autres médias. Donc, moi-même, je ne suis pas très présent dans les médias, mais le peu que j'ai, je vais essayer de l'offrir et d'aider d'autres auteurs à émerger. Parce qu'il y a réellement une fenêtre à ouvrir pour amener un peu d'air pur dans la littérature. On ne peut pas tout le temps fonctionner avec ces systèmes anciens.
Donc, dans votre univers où énormément de choses s'interpénètrent, donc on a vu la mythologie, évidemment les découvertes scientifiques, la vibration du monde, mais vous avez évoqué tout seul la spiritualité, mais vous allez encore plus loin, il y a tout ce qui est les phénomènes extraordinaires pour quelqu'un qui a été journaliste scientifique, donc plutôt très carré, tableau Excel, on sort pas des marges. Là, on vous voit vous engager de plus en plus, avec notamment l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, l'INRES, donc sur des choses qui sont un petit peu à la marge, peut-être moins fondées.
Il y avait jadis une chose qui s'appelait Science Frontière, qui était formidable, où les scientifiques rencontraient les rêveurs. Et je crois que la science ne doit pas être aussi comme une religion intégriste, ne doit pas fonctionner avec « nous avons la vérité, tous ceux qui sont pas d'accord avec nous, faut les flinguer ». Nous sommes sortis de l'ère de la chasse aux hérétiques, nous sommes sortis de l'ère des certitudes. La plupart des grandes découvertes sûres de nos jours seront probablement obsolètes dans le futur, donc il faut avoir une plus grande humilité. Je ne suis pas dans les croyances des anges, des extraterrestres, tout ça, mais je me dis, vu que j'en sais rien, autant me renseigner, autant réfléchir dessus. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de vérification qu'on ne doit pas ouvrir le débat. Alors, je me méfie des deux camps terribles qui sont les croyants et les athées. Les croyants qui savent que Dieu existe et les athées qui savent que Dieu n'existe pas. Dans les deux cas, ça me semble très prétentieux. Je préfère la troisième position qui est agnostique, c'est je ne sais pas, donc je me renseigne, j'écoute tout le monde et après je me forgerai une opinion personnelle en essayant de n'être influencé par personne. Et cette attitude me semble une attitude dynamique, une attitude d'honnête homme. Et en plus, ça nourrit mon travail qui consiste à raconter des histoires qui font rêver. Maintenant, je crois que dans tous les camps, y compris dans le camp des gens qui s'intéressent aux choses inexpliquées, il y a des gens qui abusent, c'est-à-dire il y a des escrocs, il y a des sectes, il y a des illuminés complets, et le seul thermomètre de j'y vais ou j'y vais pas, j'allais dire c'est mon intuition personnelle, c'est ce que je propose aussi à mes lecteurs, je leur dis faites-vous une opinion par vous-même, ne soyez pas influencés par un camp ou par l'autre, juste posez-vous la question, est-ce que ça me semble vrai ou est-ce que ça me semble probable, et surtout se méfier de tous les gens qui prétendent détenir des vérités. Ça m'a l'air la base de l'attitude de l'homme moderne. Et de savoir, je crois aussi que la spiritualité, c'est un cheminement. Cheminement, ça veut dire qu'à aucun moment on est arrivé. Ceux qui sont arrivés, qui ont trouvé tout, la foi, l'illumination, Dieu et la révélation, ben ils ont plus besoin de cheminer, donc c'est fini pour eux, ils ont plus qu'à s'enfermer dans une pièce, ils sont heureux. Maintenant, pour les autres, ceux qui sont en appétit de savoir, ceux qui sont curieux, dont j'ai la prétention de faire partie, je propose juste de continuer à cheminer, quitte à faire des expériences, quitte à se tromper, quitte, une fois qu'on s'est trompé, à faire demi-tour. Mais c'est ça la vie, et l'avantage c'est qu'on est dans une dynamique de progrès. Et la conscience, pareil, il n'y a pas un moment où on est inconscient, un moment où on est conscient. C'est une aventure, c'est un cheminement, et c'est un cheminement où toute une vie ne suffit pas.
Alors, on a bien compris comment vous fonctionnez. En fait, vous êtes une sorte d'éponge universelle avec des filtres de la curiosité.
Voilà, je veux bien ça. Oui.
Et comme une sorte de radar lié à votre culture et à cette curiosité. Et donc, comme ça, vous arrivez à serrer des problèmes, à vous dire, tiens, ça serait peut-être ça, surtout qu'en plus, vous faites appel à vos lecteurs. Donc, vous vous nourrissez, on comprend bien. Mais à un moment, quand même, pour faire une œuvre comme la vôtre, il faut bien un peu de mécanique, d'organisation, il faut visser les boulons, tirer des câbles, trouver où il y a du courant.
Ouais.
Et ça doit pas être rien, parce qu'on voit grosso modo, on se dit, bon, il a une idée, alors après, il a deux, trois fils d'intrigue, il y a sa formation de criminologue, donc il se fait trois coups de suspense, machin, mais quand même, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on dirait que ça part dans tous les sens, mais à un moment, c'est toujours noué.
Oui, parce que je suis un adorateur du plan. C'est-à-dire, je considère que l'essentiel du travail, c'est faire l'architecture de l'histoire. Donc, il faut connaître la fin avant de commencer le début. Et il faut organiser avec un pied, un ventre et une tête. Et qu'il faut répartir les masques. Comme j'allais dire, comme Dieu nous a créés, il a réparti les organes. Il a fait d'abord un squelette qui correspond au plan. Il a placé des organes qui correspondraient chez moi aux grandes scènes spectaculaires. Puis les muscles, qui sont les petites scènes qui font avancer. Et après, il a tendu la peau. Et nous, on se voit entre nous la peau. Mais ce qui est le grand talent de Dieu, c'est peut-être le squelette d'abord. Ben, moi, j'ai appris à faire des squelettes à force d'écrire. Et j'ai commencé à écrire très jeune. Et j'ai testé toutes sortes de squelettes qui fonctionnaient pas jusqu'au moment où j'ai commencé à trouver des squelettes qui fonctionnaient. Et là, maintenant, c'est vrai que, à côté des idées, de la matière première que je mets dedans, il me faut d'abord trouver le squelette. Et ce travail-là est le travail qui me passionne le plus. Ça consiste à jouer avec la curiosité du lecteur, avec le, comment dire? Il faut tenir le lecteur tout le temps en haleine, il faut qu'il soit pris par l'histoire, et ça, c'est une mécanique squelettique. Alors, j'utilise encore un autre terme, c'est l'horlogerie. Et ce travail d'horloger, vu qu'il n'y a pas d'école en France, ça ne s'apprend que par l'empirisme. Il faut tester des rouages, on regarde si ça marche, si quand on met à l'intérieur le lecteur, il arrive au bout, transformé. Et c'est le côté scientifique, parce que je crois que faire un roman, ce n'est pas que de la poésie. Il y a une sorte de mécanique d'horlogerie pour tenir le lecteur en haleine et pour faire que ça soit un pur plaisir. Et c'est ça le vrai art du romancier.
Mais alors, rentrons un peu dans les détails. Tous les matins à 8h, vous arrivez, vous mettez devant votre ordinateur.
Au café, je fais ça au café.
Mais avec un ordinateur, c'est
un ordinateur portable. Oui.
D'accord. Et sur l'ordinateur, est-ce que par exemple, quand vous l'ouvrez, il y a ce que vous n'avez pas achevé la veille et donc il y a un grand désordre sur votre écran ou bien tout a été super rangé?
Tout est rangé.
Ah, est-ce qu'il y a des histoires en parallèle qui ne sont pas achevées, parce que vous en écrivez plusieurs en même temps à l'intérieur du squelette?
Ah, je vois que vous connaissez tous les trucs. Alors, j'utilise une fonction très peu utilisée sur Word, qui est la fonction plan. C'est-à-dire, je fais début, milieu, fin. Et après, je commence à garnir avec les chapitres. Donc au moment où j'arrive le matin, j'ouvre, j'ai déjà le plan qui me surgit tout de suite. Et après, je rentre dans différents niveaux de profondeur du plan pour aller donc du niveau du squelette aux organes, aux muscles et à la peau. Et je travaille simultanément un peu partout. Mais surtout, je fais des allers-retours un peu comme sur Google Earth. Vous savez, vous zoomez sur la planète. Alors je recule pour voir la planète, qui est mon roman vu de loin. Et puis je zoome pour voir un chapitre, puis je rezoome en arrière, puis je rezoome en avant. Et je fais ces allers-retours. Mais j'ai à côté de ça un fichier documentation dans lequel je note toute ma matière première. Je note par exemple les portraits des personnages avec leurs faiblesses, leurs forces, leur passé, leurs caractéristiques, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils mangent, quels sont leurs tics, qu'est-ce qui peut agacer chez eux.
Qu'est-ce qui les rend humains, quoi.
Ouais, leur paradoxe. Mmh. Surtout, le moteur, le ressort d'un personnage, c'est le paradoxe. Donc j'ai cette petite zone documentation dans laquelle je pose les éléments, mais surtout j'ai mon roman qui apparaît sous forme de plan, qui se déploie et se rétracte et se contracte comme un animal qui respire.
Et tout ça, c'est la fonction Word qui vous le permet?
Oui, mais elle existe sous d'autres programmes.
Ouais, ouais.
J'essaie de convaincre d'autres auteurs d'utiliser cette fonction. Alors des fois, c'est la révélation, ils me disent « Ah ouais, maintenant je vois tout le temps le plan ». En général, c'est ceux qui commencent par la fin, qui adorent le mécanisme là que je leur propose. Ouais. Mais ceux qui avancent après ce chapitre, ils ont envie de se surprendre eux-mêmes dans l'écriture. Ceux-là, ils n'aiment pas la fonction plan. Mais moi, je conseille aux jeunes auteurs d'utiliser à fond la fonction plan pour savoir exactement où ils en sont. Et quand je lis des romans, je vois bien ceux qui n'ont pas écrit bien le plan, qui n'arrivent pas à boucler le dernier chapitre, qui du coup mettent n'importe quoi pour arriver à terminer le truc. Et je me dis, c'est dommage, ça vaut vraiment le coup de bien travailler son plan avant de commencer l'écriture.
Bernard Werber, pour finir, la question c'était, la science-fiction est-elle crédible alors,
parce que... alors, la science-fiction est nécessaire, la science-fiction change le monde. Tout à l'heure je disais, il n'y a pas de littérature de genre, il n'y a que des bons et des mauvais livres. Maintenant je comprends bien ce que veut dire le mot science-fiction, ça veut dire malgré tout ceux qui font la science-fiction. Il faut voir que des livres comme, par exemple, Le meilleur des mondes ont servi à voter les lois sur le clonage. Donc il y a un moment où la science-fiction, non seulement elle est crédible, mais c'est elle qui change l'actualité. Je pense que des livres aussi comme 1984 d'Orwell ont aussi permis à certains partis de passer ou de ne pas passer. Il y a un moment où la science-fiction peut changer le monde, il y a un moment où la science-fiction a le devoir d'avertir, et il y a un moment où la science-fiction a un rôle social. Actuellement, il n'y a que dans la science-fiction qu'il y a des visionnaires. Les politiciens ont laissé tomber, les scientifiques ont laissé tomber, tout le monde a peur d'être ridicule en parlant du futur. Il n'y a que les auteurs de science-fiction qui s'autorisent à dire « ça se peut que dans le futur ça soit comme ça, et c'est pas grave, on va pas les juger ». Donc profitons de ce petit espace pour parler du futur, et j'ai envie de donner envie à tous les lecteurs, utiliser la science-fiction en vous disant « c'est peut-être un endroit où je vais enfin voir venir le futur, au lieu de le subir sans rien faire ».
Eh bien, c'était dans Autour de la question. Malheureusement, ça finit pour ce vendredi. Merci Bernard Werber. Vous nous avez servi de guide sur les sentiers de l'imaginaire et ou du futur. On verra bien. Avec lui, on ne sait jamais. Chaque fois que je vous reçois, c'est pareil. Merci à Ludivine Amado, dont la voiture improbable vient certainement du futur, j'en suis sûr. Et à Cécile Bonissime, complice attentive d'avoir réalisé cette émission. La science, ça continue lundi avec Caroline Lachowski et Guillaume Ploquin. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Ce sera le même jour et la même heure.